Bonsoir et bienvenue au pôle des langues et civilisations et à cette rencontre organisée par la Bulac. Donc cette invitation à rencontrer Andrei Kourkov, que nous remercions très chaleureusement de sa présence parmi nous, à l'occasion de la sortie aux éditions Liana Levy de son dernier roman, Le jardinier de Tchakov. Donc en fait, juste pour vous faire une courte introduction sur des rencontres autour du livre de la mission Action culturelle de la Bulac, dont l'idée, pour faire court, est de rapprocher les auteurs de leur public. Et donc des rencontres qui s'adressent non seulement au public de la Bulac, mais aussi à tous les au grand public, aux habitants du quartier, enfin voilà, à l'ensemble de nos publics. Et je remercie l'association France Oural qui est partenaire et co-organisatrice de cette rencontre pour son aide. Et je vais passer donc la parole à Christine Metz, qui est directrice du prix Russophonie et des rencontres de la littérature russe, qui ont lieu en ce moment, enfin qui vont commencer au Kremlin-Bicêtre. Voilà, très bonne soirée.
Merci Mélanie. Donc c'est une rencontre tout à fait naturelle, on va dire, puisque lorsque l'association France Oural a créé le prix Russophonie en 2006, puis en 2010, les journées du livre russe, qui sont aux 5, ont donné naissance à un festival qui s'appelle le Festival Roussenko. Notre objectif était justement de rapprocher les lecteurs de tous ceux qui participent à la chaîne du livre, bien entendu les auteurs, mais aussi les traducteurs. C'est pour ça que le prix Russophonie récompense un prix de traduction. Et donc, je vois que nous avons complètement des intérêts convergents et c'est donc naturel que nous soyons là ce soir. Ce qui semble naturel également, c'est que cette très belle bibliothèque que nous venons de visiter, qui est la Bibliothèque des langues et des cultures, accueille un auteur qui parle plusieurs langues fort bien. Vous allez pouvoir en juger vous-même, dont une qui est le japonais, qui n'est pas si simple. Et puis, dont on peut se poser aussi une question tout de suite, c'est Andrei Kourkov, est-ce que c'est un écrivain russe qui vit en Ukraine ou est-ce que c'est un écrivain ukrainien d'expression russe?
J'ai dit toujours, en Ukraine, c'est une question provocative. Parce que j'étais critiqué par aussi mes amis qui étaient et sont nationalistes ukrainiens. Si je veux dire que je suis un écrivain ukrainien, il faut que j'écris en ukrainien. Mais je suis d'origine russe et ma langue maternelle est russe. J'étais né à Leningrad, mais je suis vécu à Kiev. Kiev était aussi une ville russophone et reste presque 80-75% ville russophone. Mais dans le même moment, la situation linguistique est très intéressante pour un chercheur qui fait les recherches dans le, comment on dit, dans les choses psycholinguistiques, parce que presque toutes les écoles à Kiev sont ukrainophones. Il y a seulement 3 écoles russes, mais mes enfants vont dans une école d'État normale, ukrainophone, avec un accent sur l'anglais, sans étude de la langue russe. Et pendant les pauses, tous les enfants parlent russe, comme aussi presque tous les enseignants parlent russe, mais tout est enseigné en ukrainien. Et comme ça, je crois que beaucoup de gens, aussi beaucoup de gens ukrainophones, sont fatigués de cette situation et il n'y a pas de politiciens qui peuvent vraiment faire quelque chose de rationnel. Parce que pour les politiciens ukrainiens, c'est plus important de partager les gens que de trouver une solution pour ce problème, pas du tout économique, et pas politique, mais c'est un problème linguistique et c'est le problème d'identité. Qu'est-ce que c'est une nation, la nation ukrainienne? Est-ce que c'est une nation ethnique ou politique? Parce que, bien sûr, pour beaucoup de gens, c'est une nation politique, comme parmi 45 millions d'habitants d'Ukraine, il y a entre 8 et 12 millions de Russes ethniques, il y a 400 000 Tatars de Crime avec la littérature en langue tatare de Crime, avec et cette littérature n'est pas traduite en ukrainien, ni en ukrainien, ni en russe. Il y a 275 000 habitants d'origine hongroise dans la Transcarpathie. Et comme ça, pour moi, c'est logique que je suis un écrivain ukrainien, russophone, d'origine russe. mais c'est pas naturel pour tous les gens.
Oui, sans doute, oui. Et pour les Russes, c'est pas nécessairement non plus. Enfin, les Russes préféraient sans doute que tu sois, gardais la nationalité.
Non, j'ai déjà été appelé le traître de la culture russe, mais grâce au mot russophonie, cette phase est finie avec traître russophone dans les pays différents qui écrivent en russe, mais ils ne veulent pas vraiment être considérés comme la partie de la littérature russe contemporaine ou la littérature de la Russie contemporaine.
Bon, j'espère qu'on a un petit peu contribué à la réhabilitation d'André Kourkov en Russie. André Kourkov, donc vous le savez, vous le connaissez sans doute, il est l'auteur d'une bonne quinzaine de romans maintenant en russe, d'une trentaine de scénarios de cinéma et de livres pour enfants que vous pourrez trouver en russe et en français.
Pas en français.
En français.
Je suis désolé, pas en français.
Non, mais on pourra trouver les livres.
Non, les livres pour les enfants ne sont pas traduits.
Ils ne sont pas traduits.
Oui, mais les romans, oui.
Les romans, oui. Il vient donc de sortir un très joli livre qui s'appelle Le jardinier d'Otchakov, chez son éditeur qui est maintenant depuis presque toute ton œuvre et chez éditions Liana Levy. Tu avais commencé au Seuil, je pense, mais...
Non, j'ai commencé à l'édition de Liana Levy, mais comme l'édition de Liana Levy ne faisait pas les poches...
Ah, d'accord.
En poche étaient sortis toujours par le Seuil, mais ça change maintenant aussi. Je crois que je passe vers Gallimard, mais je ne comprends pas comment ça va marcher.
Enfin, bon, en fait,
mais c'est la distribution des livres de...
Ça m'intéresse.
D'édition. C'est Simon, les distributions, ou il y a encore quelque chose? Tu as dit quoi? Ah oui.
Voilà. Bon, donc vous êtes maintenant initié à cette sombre cuisine, mais bon, André Kourkov a donc un éditeur qui a une belle collection de livres de lui, qui est donc Liana Levy. Le premier livre qui est sorti, et moi je me rappelle que c'était quand même un livre qui a fait date, en 1991, c'était Le Pingouin. Il est sorti, c'était il y a 20 ans, et vous pourrez voir la semaine prochaine une table ronde qui marque ces 20 ans de l'effondrement de l'Empire soviétique. Mais à l'époque, Le Pingouin, c'était un livre complètement novateur, complètement frais, et tout le monde a vu venir un auteur assez exceptionnel. Ce livre, il est traduit dans combien de langues ?
34.
34.
Ouais.
Et dans quel pays tes œuvres sont le mieux reçues, d'après toi ?
Oui, je crois que c'est les pays de la langue allemande, c'est la France, les pays anglophones et Japon, et Corée du Sud aussi.
Et la Corée du Sud,
oui.
D'accord. Il y a une raison pour ça, tu penses ?
Je ne sais pas, mais je crois que les Coréens, comme aussi les Japonais, sont des gens très curieux.
Uh-huh.
Et s'ils trouvent quelque chose un peu bizarre, ils veulent comprendre ça. Je ne sais pas, mais en fait, j'étais surpris parce que j'ai passé deux fois par Corée du Sud. Je faisais deux tours de promotion et j'ai trouvé un club, fan club du Pingouin à Séoul. Et c'était les jeunes étudiantes de 17, 18, 20 ans qui enfin, ne posaient pas des questions, mais voulaient que je bavarde.
Ouais.
C'est tout. J'étais là avec un traducteur parce que je voulais dire raconter tout en anglais. Et ils ont dit non, nous avons des traducteurs des Russes et c'est mieux de vous écouter
parler
russe. Oui.
Donc le Pingouin est un roman qui a fait date. Il me semble qu'il y a un autre roman qui jalonne un peu ton chemin. C'était la sortie en 2005 du Dernier amour du président. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais de façon totalement prémonitoire, il y a un président ukrainien qui a d'une part un frère jumeau. Alors là, il me rappelle pas mal les Polonais. Je ne sais pas si c'était avant ou après, mais enfin, tout d'un coup, on s'y tient. Les Polonais se sont inspirés d'André Kourkov. Et ensuite, alors je ne sais pas si c'est toi qui as inspiré, mais le président en question se fait empoisonner, comme s'est fait empoisonner quelques temps plus tard le président Yushchenko en Ukraine. Est-ce que en Ukraine, ça a un peu bouleversé les gens quand Yushchenko s'est fait... Est-ce que rétrospectivement, on t'a un peu regardé différemment après l'empoisonnement de Yushchenko ou pas? On a dit c'est une pure...
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas? Tu n'as pas remarqué?
Non.
Non? D'accord.
Mais le roman était édité 6 mois avant la révolution orange et avant l'empoisonnement. Oui. Mais il y avait beaucoup d'autres choses, petites choses dans le roman, aussi le conflit du gaz avec la Russie.
Oui, oui. Oui, c'est un roman complètement prémonitoire.
Oui.
Et on ne t'a pas accusé des pires choses après d'avoir...
Non, j'étais le janvier 2005, j'étais invité dans le restaurant par deux généraux de services secrets d'Ukraine qui a commandé tout de suite de NSI et voulait savoir si... quelqu'un pouvait utiliser mon roman comme le scénario pour l'empoisonnement. Mais c'était une conversation très amicale.
Oui, informelle.
Oui, informelle. Et j'expliquais que c'était possible parce que les gens qui empoisent les autres professionnellement ne lisent pas la littérature.
Oui.
Et lisent la littérature professionnelle. Et il y avait des autres raisons, parce que la phase des empoisonnements politiques a commencé à Moscou en 1998, je crois, avec la mort d'un banquier d'origine grecque, Dimitri Hadi. Mm-hmm. Après, c'était le journaliste Yuri Chikochikhin de Literaturna Gazeta.
Voilà.
C'était pas quelque chose... complètement surprise.
D'accord, ce n'était pas une surprise, et donc mais bon, c'est bien parce qu'en d'autres temps, on aurait pu t'accuser quand même des pires choses.
Ah oui.
C'est évident. Alors, très souvent, dans tes livres, il y a une intrigue policière. On sent que ce n'est pas ce qui est vraiment important dans l'intrigue policière, parce que parfois, comme par exemple dans l'étier de nuit, on voit que finalement le dénouement se fait assez facilement. Est-ce que c'est un truc d'écrivain qui permet de captiver l'attention du lecteur, ou est-ce que c'est un moyen de révéler avec plus de puissance des traits de caractère de tes personnages et des travers de...
C'est les deux, je crois.
Deux.
C'est les deux, parce que bien sûr, s'il y a des trucs policiers dans le roman, on voit que le sujet est plus dynamique et il y a plus d'intrigues. Et c'est plus facile vraiment de montrer les caractères des personnages.
Oui.
C'est comme ça.
D'accord. Toi-même, tu es un lecteur de littérature policière ?
Moi, non.
Non, tu ne lis pas de littérature policière.
Non, je ne lis pas.
Alors, c'est un étrange mélange parce que, de fait, on est dans la littérature policière et puis on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses très sérieuses qui sont dites, et notamment une dénonciation assez forte de la société. Et dans tes premiers romans, pas mal de pessimisme quand même.
Oui.
Oui ? Et ça évolue un petit peu, ça ?
Oui, la vie change.
La vie change.
Avec les années, j'échange aussi. Ouais. Je me souviens que mes premiers personnages, les héros principaux, étaient toujours un peu infantiles au début.
Ouais.
Et ils attendaient qu'il y a quelque chose qui va passer vers eux. Ouais. La vie était toujours plus forte que les personnages. Et les personnages cherchaient les chemins, les possibilités de se cacher. N'être pas touché par la vie, par la... Comment on dit cruelty.
La cruauté.
La cruauté et tout ça. Mais c'est le personnage du pingouin, c'est Victor. Dans le pingouin, mais dans le deuxième roman, dans la suite, les pingouins n'ont jamais froid. Et le deuxième était écrit en 2001. Il était devenu déjà un peu plus actif. Plus entrepreneur.
Entrepreneur,
oui. Et c'est-à-dire que c'est la génération des intellectuels infantiles post-soviétiques était devenue un peu moins infantile parce que pas tous pouvaient survivre.
Oui.
Pas tous pouvaient se cacher.
D'accord. Survivre, ça veut dire face aux nouvelles exigences de la vie économique.
Assez adapté à vie vraiment sans règles ou avec la vie avec la règle installée par le monde criminel, par le monde corrompu, tout ça.
Quand tu dis des intellectuels infantiles, tu peux préciser un petit peu?
Oui, c'est les dissidents, c'est les amateurs des blagues politiques. C'est les gens qui toujours détestaient le régime soviétique, mais après la chute de l'Union soviétique, ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qu'il passe et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour survivre, pour trouver le travail, pour s'adapter.
Oui.
À vie.
Oui. Ils étaient à peu près inadaptés, enfin, un peu comme des enfants. C'était pas un travers, c'était leur nature.
Mais l'Union soviétique, c'était vraiment un pays pour les enfants.
Oui.
Non, c'est vrai, c'était comme comment on dit, un jardin pour les enfants, kindergarten.
Oui, oui, un jardin d'enfants. Où les décisions étaient prises, effectivement. Moi, j'ai un jour, une de mes étudiantes, j'étais très jeune, j'étais assistante en Russie, en URSS, une de mes étudiantes qui avait mon âge, 22 ou 23 ans, m'a dit, on avait beaucoup discuté, un jour, elle m'a dit, écoute, moi, je ne pourrais pas vivre en France parce qu'il faut choisir.
Oui.
Il faut faire des choix. Et ça lui semblait quelque chose de très complexe. Donc, effectivement, c'est l'URSS qui générait cette infantilisme.
Ah oui.
D'accord, plus qu'un travers, c'était partagé par à peu près tout le monde dans la population, j'imagine. On a parlé un petit peu du côté policier. Alors, chez Kourkov, très souvent, ça se double, enfin, le côté policier est doublé par le fantastique. Il y a des éléments fantastiques qui apparaissent. On peut pas vraiment parler de littérature fantastique,
non.
Mais il y a des un moment, hop, ça saute. On déraille un petit peu. Et alors, on se demande, on se dit, tiens, moi, j'ai pensé à Trasuchan, est-ce qu'il s'ennuie? Et il se dit, ben, tiens, je vais me distraire, c'est rigolo, je vais mettre ça. Est-ce que c'est planifié à l'avance, cette intrusion du fantastique? Ou bien, est-ce que c'est pour échapper aux contraintes? Parce que quand on écrit, quand on est dans le monde réel, enfin, ou dans la fiction qui représente le mode réel, on a des contraintes. Et là, ça permet d'échapper aux contraintes. Alors, pourquoi il y a assez souvent des éléments fantastiques dans tes romans?
Je crois parce que un de mes auteurs préférés était Daniel Charme. C'est le père de la littérature d'absurde. Mmh. Mais aussi, j'écrivais beaucoup des contes pour les enfants. Et je crois que ces éléments du fantasme dans les romans sont aussi influencés par les contes, mais aussi par mon hobby de chercher les choses absurdes dans la vie réelle. Parce que bien sûr, en France, peut-être c'est plus difficile de trouver quelque chose d'absurde dans la vie réelle, mais dans l'Union soviétique et maintenant en Ukraine, c'est très facile.
Oui.
C'est très facile et c'est très amusant parce que l'absurdité quotidienne est née dans la réalité. C'est tout se passe très logiquement.
Oui.
Et comme ça, je cherche toujours l'évolution des événements dans le roman, du sujet, qui commence complètement normalement.
Oui.
Mais peut se développer dans la direction d'absurde.
Oui. Parce qu'en fait, c'est le fantastique qui rend le mieux compte de la réalité,
oui.
Visiblement,
oui.
Et de cette absurdité.
Oui.
D'accord. Alors, dans Le jardinier d'Otchakov, justement, il y a de nouveau un élément fantastique, ce qui crée de la poésie aussi, ce fantastique, beaucoup, enfin, comme dans la littérature enfantine. On va raconter un petit peu cette histoire de ce jeune homme, Igor. C'est donc un jeune Ukrainien, une sorte de Tanguy. Tanguy, c'est un héros d'un film français qui vit chez ses parents, qui a à peu près le même âge que ton Igor, et qui ne veut pas partir de chez ses parents. C'est-à-dire, il est bien, là, il est chez ses parents, et à un moment, ses parents sont obligés, enfin, il est complètement infantile lui aussi, à un moment, c'est ses parents qui sont obligés de déménager parce que leur fils n'arrive pas à s'envoler et à partir, à quitter le nid familial et à voler de ses propres ailes. Et là, on a un petit peu un Tanguy. Il a donc 30 ans, il vit chez sa mère,
oui.
Qui est une petite retraitée. Il ne travaille pas, il ne rêve pas de trouver du travail d'ailleurs, il est bien, il vit une vie pépère, tranquille, de temps en temps il retrouve son ami et ils boivent ensemble, ils papotent et voilà, il rentre chez sa mère. Et puis un jour il y a un facteur déclencheur qui arrive, c'est Stjepan.
Oui.
Donc, quel rôle il joue, ce Stjepan, particulièrement dans ce livre?
Mais en fait, il y a des gens comme ça, les gens, on peut dire sans domicile, mais c'est pas les clochards, c'est les gens qui traversent le pays et arrêtent dans un village et restent chez une femme en faisant le petit boulot, réparant le bâtiment, des choses comme ça, et après 2-3 ans, ils partent sans dire un mot. Elle trouve une autre femme dans notre village. C'est un homme comme ça, avec une biographie pas très claire, mais bien sûr, c'est pas quelqu'un éduqué. On peut dire qu'il est éduqué par la vie.
Voilà. On sent une certaine sagesse.
Ouais.
Et de toute façon, dans ces personnages qui passent comme ça, qui traversent la vie des autres, il y a toujours aussi, on sent un mystère et la potentialité de quelque chose qui arrive.
Oui.
Donc ce Stjepan s'installe chez la mère d'Igor, enfin chez eux, et il loue ses services et il va vivre dans la remise qu'on met à sa disposition. Et là, sur son épaule, il porte un tatouage. Et ce tatouage, il se rappelle que c'est un tatouage qu'il a de naissance, que son père lui a fait avant de disparaître. Mais simplement, il est indéchiffrable. On peut pas lire ce qu'il y a sur le tatouage. Et ça intrigue un peu notre Igor,
ouais.
Qui décide de prendre une photo avec son appareil numérique et d'essayer de demander à son ami, qui est un spécialiste de Photoshop, de voir si on peut reconstituer ce tatouage. Et en fait, ils arrivent à lire ce qu'il y a sur le tatouage. Et il y a...
C'est 1957, la ville Otchakov, chez Fima Chagin.
Chez Fima Chagin, voilà, trois indications qui sont, pour ce Stjepan, très parlantes.
Oui.
Donc il décide de... Otchakov, ça lui dit quelque chose, c'est sa ville de naissance. Et donc il décide de retourner dans cette ville très vite, très vite. Et il demande à Igor de l'accompagner. Donc ce que Igor fait... Et donc ils partent tous les deux à Otchakov, et là ils vont découvrir un trésor.
Oui.
Tout simplement.
Oui, ils trouvent la maison de Fima Chagin et ils trouvent l'information qui il était. C'était un petit criminel, mais en fait c'était quelqu'un qui gardait les choses volées par les autres. Criminels par les voleurs, pendant les voleurs étaient arrêtés et passaient le temps dans les prisons.
Voilà, c'était un receleur. C'était
ouais.
un receleur. Et donc, on comprend qu'il y a quand même un lien entre ce film à Chagin et le père de Stjepan et avec Stjepan. Et donc, il y a quelque chose d'assez captivant parce qu'on est vraiment accroché, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue très compliquée, mais tu arrives à vraiment captiver l'attention parce qu'on a un nœud quand même un petit peu mystérieux autour de la vie de ce Stjepan et de ce trésor. Déjà, le lecteur est quand même tenu en haleine. Et lorsqu'ils reviennent à Irpen, donc dans la banlieue de Kiev où ils vivent, Stjepan partage le butin. Il garde une grosse partie du trésor. Et il donne à Igor
une uniforme des policiers
des années 50,
50
oui.
50, oui, avec deux paquets de roubles soviétiques,
ouais,
de ce temps.
De billets de 1000 roubles.
Oui.
C'est une somme coquette, mais qui, au demeurant, ne peut plus servir parce que le rouble n'a jamais été vraiment convertible, et il est encore moins maintenant. Donc, Igor est un peu déçu de se retrouver avec ce maigre butin. Mais néanmoins, en fait, ce cadeau n'est pas du tout un cadeau empoisonné, c'est un cadeau magique.
Oui.
Oui. En ce sens que Igor est invité en Ukraine comme en France, il y a une soirée rétro. Il est invité, il habite
dans le banlieue de Kiev, Irpin.
Oui.
Il est invité par son ami pour... une soirée comme ça, rétro,
oui.
Pour fêter le jour de naissance.
Oui, son anniversaire.
Son anniversaire. Oui. Et il part de la maison. Et il décide de mettre cet uniforme
rétro
des policiers et sort de maison pour aller prendre le bus à Kiev. Oui. Et il marche, c'est très tard, il marche beaucoup dans le... Comment on dit
sur la rue.
Sur la rue, et pense qu'il y a quelque chose d'étrange parce qu'il ne voit pas des stations d'autobus. Et il se retrouve par hasard en 1957 près de la porte de la fabrique du vin,
distillerie
du vin, à Otchakov.
À Otchakov. Donc on l'a compris, ce cadeau, enfin cet uniforme de lieutenant lui permet, quand il le porte, de se transporter à Otchakov dans le passé.
Et tout de suite, il remarque un jeune homme qui en fait le travailleur de distillerie et le voleur du vin.
Oui, qui va d'ailleurs l'adopter, parce qu'au début, évidemment, il y a un malentendu. Il voit arriver un policier, enfin un milicien. Ce garçon, il est donc très, 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 tout à fait affolé. Igor n'a pas du tout l'intention de l'arrêter. Et donc, ils vont devenir amis. Et c'est lui et sa famille qui vont héberger Igor quand Igor fait ses voyages à travers le temps. Voilà. Alors là, il y a une chose, donc il débarque dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Il a bien entendu parler de cette époque ringarde, soviétique, avec tous ces gens bizarres. On sent qu'il a voulu mettre une croix sur toute cette époque. Mais tout d'un coup, il regarde autour de lui, sans a priori d'ailleurs. Et en fait, il trouve ça plutôt assez agréable. L'Ukraine soviétique.
Ah oui.
Ouais. Par exemple, il trouve que la vie bouillonne. Et puis, il y a une chose qui m'a quand même interpellée, c'est qu'il voit que dans les yeux des passants, une sorte de flamme singulière, presque joyeuse, reflet d'un appétit de vivre. Alors, l'appétit de vivre, c'est clairement ce dont manque Igor. Parce qu'il a cette espèce de passivité, il est là, chez lui, il ne fait rien. Bon. Et en Union soviétique, ou dans l'ex-Union soviétique, il trouve une espèce de joie de vivre. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une petite nostalgie d'une autre époque?
On peut dire une petite nostalgie, mais en fait, l'année 1957, c'était vraiment la période magnifique dans l'histoire soviétique. Après la mort de Staline, c'était le début des espoirs nouveaux de Nikita Khrushchev. C'était l'année quand le premier Spoutnik artificiel était lancé par l'Union soviétique dans l'espace, dans le cosmos. C'était l'année du premier festival de jeunesse internationale. Et cet festival a ouvert la porte dans l'Union soviétique plutôt pour l'Asie et l'Afrique. Et comme le résultat, on a eu la première épidémie de syphilis aussi.
Ah, oui.
Mais on ne parle pas dans le livre sur ce sujet. Mais vraiment, c'était une phase positive.
Oui, c'est ça. On a un petit peu une espèce d'image d'Épinal.
Oui, mais la vie était la même qu'auparavant. C'était ce monde dans l'air de la vie.
C'est ça, c'est-à-dire une façon de percevoir les choses. Et Igor est tout à fait sensible à ça. En tout cas, on aperçoit qu'il y a un contraste quand même entre une espèce d'appétit de vivre et cette absence d'appétit de vivre que lui a. Il n'a aucun appétit de vivre. Ça semble quand même... Alors, est-ce que c'est une marque de la jeunesse ou de la société ukrainienne actuelle, ce manque d'appétit de vivre?
Je crois qu'on peut dire ça, pas seulement sur la société ukrainienne, mais sur les sociétés post-socialiste ou post-soviétique, parce que la vie est beaucoup plus pragmatique maintenant. Il n'y a pas beaucoup de désespoir. Tous les gens cherchent la possibilité de devenir plus riche ou c'est bien installé dans la vie pratique. Et je crois que c'est la question de... du moment quand on manque pas d'idéologie, mais on manque des sentiments émotionnels à propos de la vie et le futur.
Mmh. Oui. C'est un peu grâce à la mondialisation, c'est un petit peu partout pareil et on a assez peu d'espoir, d'envie, de perspective.
Peut-être. Mais c'était aussi à 1950, c'était aussi artificiel.
Oui.
Mmh. On peut rentrer vers le thème de jardin pour les enfants.
Oui.
Parce que les enfants adorent les contes.
Oui.
Et les contes étaient racontés par la partie communiste, mmh. par le gouvernement. Et maintenant, personne ne croit les contes qui sont racontés par M. Poutine ou M. Yanukovych.
Oui, et puis on peut toujours penser que le passé a toujours un petit peu de charme. Enfin, c'est un peu comme les photos. Igor, à un moment, décide pour prouver notamment à son ami Kolian qu'il voyage dans le passé, il décide de prendre des photos. Donc il achète un appareil photo et il demande à ce jeune garçon qui fait du trafic de vin de le prendre en photo. Et il ramène ces photos, qui ont bien entendu un charme fou, puisqu'il les amène à développer chez un photographe. Et ce photographe est absolument séduit par les photos.
Oui, parce qu'il comprend que ce n'est pas Photoshop,
oui.
parce que les photos ne sont pas numériques, ils sont faits avec un appareil vieux soviétique,
mm-hmm.
et c'est les photos des vies des années 50.
Oui. Mais il trouve ça quand même absolument magnifique, parce que c'est la qualité de la photo, je pense. C'est la qualité du noir et blanc. Enfin, il y a une espèce de magie, de poésie, sans doute, qui fait que tout d'un coup, on se retrouve avec des photos exceptionnelles, alors que maintenant, on a tous ces outils. C'est assez drôle. Alors, il y a dans le livre, comme ça, deux textes dans le texte. Il y a les photos qui racontent une histoire aussi. Et puis, il y a aussi une espèce de traité écrit par le père de Stéphane.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est ce texte dans le texte?
Non, c'est je ne veux pas dire tout beaucoup sur ce sujet. Et en fait, j'ai planifié de faire l'histoire du père de Stéphane un peu plus riche, plus long. Mm-hmm. Comme ça, j'avais danger que cette histoire peut devenir plus importante que l'histoire de Igor. Et comme ça, j'ai décidé de garder l'histoire du père un peu court. Mais il est dans le roman, le père de Stéphane, il était le dissident gastronomique. Parce qu'en fait, il avait des plats, on peut dire interdits, parce que c'était les plats gastronomiques bourgeois, d'origine bourgeoise.
Bourgeoise, oui.
Parce que dans l'Union soviétique, après la révolution de 1917, tous les côtés de vie étaient réformés. La langue, la gastronomie, les rituels, tout ça.
Avec une référence à ce qu'avait dit Lénine sur ce sujet-là, j'imagine.
Oui.
Mais là, il y a en plus, c'est sous-tendu par une espèce d'idéologie avec les jardiniers, les forestiers, la nature. Alors, est-ce que... moi, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire, justement, parce que c'est un traité qui est quand même pas très sérieux, gastronomique, et néanmoins qu'il envoie en camp, quand même, c'est à cause de ça qu'il est arrêté, le père de...
Ah oui.
Oui. Donc il est quand même puni pour ça, pour ce dissident gastronomique. Est-ce que c'est une façon de montrer que les dissidents sont un peu infantiles et pas très fiables?
On peut dire ça.
On peut dire ça. Hein,
j'espère qu'il n'y a pas de dissidents ici dans la salle.
Oui, donc c'est ça.
Mais on a parlé hier sur ce sujet avec mes amis.
Oui.
Et en fait, je crois que nous ne comprenons pas beaucoup vraiment sur le thème de dissidents. Parce qu'il y avait beaucoup de dissidents différents. C'était aussi, plus souvent, c'était les gens, la majorité des dissidents étaient infantiles.
Oui.
Oui. Et c'est les dissidents qui étaient parfois un peu plus fortes, par hasard, dans les années 60-70, s'ils étaient les Juifs, ils ont parti le mouvement dissident pour rejoindre le mouvement sioniste et pas parti de l'Union soviétique. Mais c'est une référence, oui, vers dissident, mais je ne veux pas dire que je n'ai pas de respect, parce que pour moi, la lecture de Archipelag Gulag a vraiment changé ma vie, et j'ai lu le livre interdit, comme manuscrit, apporté par mon frère, 7 ans plus âgé que moi, dans l'âge de 15 ans.
Ah,
et c'était vraiment c'était quelque chose.
Formateur.
Oui.
C'est formateur, effectivement.
Ouais.
Oui, parce que je me suis posé cette question sur la dissidence, qui est souvent encensée. Et là, quand même, on voit qu'on a affaire à un dissident au demeurant très sympathique, mais pas très sérieux, quoi. Et qui, quand même, perd sa vie à cause de cette espèce de malentendu, enfin, un truc un petit peu absurde, quoi. Pour revenir à notre ami Igor et aux perspectives de la société ukrainienne, est-ce que, bon, d'un côté, on a un Igor qui est complètement dans la passivité, et il a, on l'a dit tout à l'heure, hein, son meilleur ami s'appelle Kolyan, et lui, c'est une espèce de hacker fou, enfin, il est très fort, il arrive à faire des choses formidables sur les ordinateurs des autres, et très vite, il décide, bien sûr, de céder aux sirènes du consumérisme et de monnayer ses services et sur des affaires un peu véreuses. Hein. Mmh. Il alimente des chantages, c'est ça.
Ah ouais.
Hein, il alimente des chantages et ça va mal finir pour lui de toute façon aussi. Mais on se demande si ta vision de la société ukrainienne actuellement, c'est ça. D'un côté, la passivité. De l'autre côté, le compromis avec le monde actuel qui est, bon, je vais faire beaucoup d'argent et je vais aussi me salir les mains. Est-ce qu'il y a une autre alternative ou est-ce qu'il n'y a que ça?
Oui, on peut travailler comme un bibliothécaire.
Ah.
mais c'est vrai parce que oui, si on veut devenir riche, c'est pas possible si tu es honnête.
Ouais.
Et comme ça, c'est le monde des gens sportifs et des gens pas sportifs. Mais je veux dire sport, pas comme le sport, mais comme les gens qui peuvent être plus agressifs, plus vite, oui, prendre du risque. Mm-hmm. Oui.
Un monde de compétition.
Oui,
et il y a ceux qui refusent d'entrer dans la compétition, comme Igor.
Igor a refusé, il est resté comme un homme infantile.
Oui, complètement aussi.
Oui.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas une...
Mais il devient très actif dans le passé, quand il rentre au Tchakov en 1957.
Oui.
Comme il peut rester là seulement pendant qu'il porte l'uniforme des policiers, et il devient un policier. Il a l'énergie, il n'a pas peur de prendre risque, de sauver jeune femme qui vend le poisson sur le marché.
Oui, dont il est tombé amoureux, la belle Valia, oui. qui est rousse, une belle, très belle rousse. Donc ça veut dire un petit peu que ce voyage dans le passé le réveille quelque part.
Oui.
Est-ce que ça le réveille quand il rentre aussi après ensuite à Irpen?
Je crois, oui, ça change son attitude à vie. Il devient plus actif et après, il tombe amoureux deux fois dans le même temps. Hein.
Oui.
Il y a une femme dans le passé qui est mariée et la fille de Stepan qui habite séparément de son père à Lviv.
Oui. Donc, on a l'impression, effectivement, qu'à la fin, il change, il évolue, il finit par trouver sa place. Et ça, c'est la confrontation avec le passé ou c'est la confrontation avec Stepan?
Non, Stepan aussi influence Igor, parce que c'est un personnage très fort, un peu clandestin, et pas vraiment peut-être honnête. Mmh. mais il y a un travailleur, il peut faire chose, il peut pousse les choses dans la vie.
Il joue un rôle de catalyseur.
Oui.
Mais comme ces gens qui passent, comme ces gens de la route qui modifient l'environnement qu'ils traversent.
Oui.
C'est un personnage assez poétique aussi, ou assez, assez romanesque. Dans ce roman, on a l'impression, comme toujours, que tu aimes beaucoup tes personnages. Tu as une espèce d'attachement et on sent une espèce de bonté à l'égard de tes personnages. C'est un sentiment de lecteur ou tu les aimes bien?
Non, je pense qu'il faut que l'auteur aime les personnages parce que si les personnages ne sont pas positifs, il faut les aimer parce qu'ils deviennent encore plus pires dans le roman.
Ils deviennent pires, d'accord.
Et ici, dans le roman, il y a seulement, je crois, un personnage qui est négatif, c'est Fima Chagin, mais il est puni.
Oui, donc... Donc la morale est sobre. Parfois il y a des meurtres qui ne sont pas punis dans tes livres. Dans l'étier de nuit, il y a un meurtre qui reste impuni.
Oui.
C'est un bon personnage qui commet un meurtre et il reste impuni.
Oui.
Ça c'est une liberté que tu...
Un peu, oui. Je pensais beaucoup de cet épisode, mais j'ai décidé de laisser l'épisode comme ça parce que c'est pas un roman didactique, c'est peut-être des côtés des morales, mais qu'est-ce qu'on paie si la société est pas morale et c'est impossible d'y trouver la justice et comment on dit, il y a collateral damage.
Oui, des dommages collatéraux.
Dommages collatéraux.
Voilà, donc un mort et un mort impuni dans l'étier de nuit.
Oui.
Alors, je parle de l'étier de nuit parce qu'il me semble que c'est, dont je parlais de romans qui avaient marqué des tournants, il me semble qu'il marque un tournant aussi parce que l'André Courcoff, antérieur à l'étier de nuit, était quelqu'un de léger, de profond, mais on sentait quand même une espèce de désespoir ou de manque d'espoir quand même assez fort.
Mmh.
Et puis dans l'étier de nuit, la légèreté devient plus légère encore et on sent même de l'optimisme. Et là aussi, je trouve qu'il y a un optimisme certain, pas un certain optimisme, mais est-ce que je me trompe ou bien est-ce que vraiment tu es en train de devenir plus optimiste?
Je sais.
Tu essaies. Alors,
non, j'espère que je vais rester comme maintenant un optimiste.
Oui, alors en plus, ça permet par exemple des happy ends. Les livres finissent bien. Et les héros positifs sortent sans dommage des aventures qu'ils traversent. Et c'est vraiment quelque chose pour toi ou bien c'est juste tu te dis que le monde est un petit peu difficile en ce moment et c'est pour les lecteurs ou,
C'est pour le lecteur et pour moi aussi, je crois. Parce que il y a trop des écrivains qui sont pessimistes.
Oui.
Il y a les happy ends sont présents seulement dans les films de Hollywood.
Oui.
C'est pas suffisant, je crois. Et bien sûr, c'est pas possible d'imaginer un happy end dans le roman de Dostoïevski ou dans le roman de Céline, mais il faut que le lecteur a choix des livres avec happy end et sans happy end.
Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quand même quelques raisons d'espérer, justement, ou quelques raisons d'être optimiste? À quoi doit-on s'accrocher?
Oui, il faut croire que la vie est intéressante. Il faut aimer la vie. Et si oui, il faut demander des vies aussi... Comment on dit, amour réciproque.
Oui, demander à la vie un amour réciproque.
Oui. Mais plutôt, les gens pessimistes sont fermés, ils ne voient pas beaucoup de choses qui se passent autour de eux.
Mm-hmm.
Et si quelqu'un est curieux, l'écrivain doit être curieux, je crois.
Mm-hmm.
Il doit rester ouvert. Mm-hmm. Et bien sûr, la personne ouverte voit beaucoup.
D'accord, c'est pas lié à une évolution de la société ukrainienne vers un mieux
la situation ukrainienne devient pas mieux, mais plus intéressante et plus dramatique, mais c'est comme une comédie noire, si vous suivez l'histoire autour de Madame Timoshenko et M. Yanukovych et un autre Viktor Yushchenko. Je crois qu'ils font le sujet pour beaucoup des écrivains à écrire. C'est dommage que Shakespeare n'est pas vivant. Mais en fait, je crois, je suis aussi optimiste parce que la nouvelle génération des Ukrainiens sont des gens complètement européens, pas soviétiques, pas infantiles, peut-être trop pragmatiques, mais dans le même temps très curieux vers la vie et très ouverts.
Oui. Et c'est un livre, enfin, c'est les romans d'André Kourkov, enfin, en France, sont souvent reçus. On lit parfois des papiers comme un auteur russe qui parle de la Russie. C'est très rigolo parce que les gens imaginent que ça se passe en Russie, alors qu'en fait, c'est très ukrainien quand même.
Oui.
C'est qui a fait un personnage dans L'été de nuit, qui a fait un personnage à part entière. Là, on a les bords de la mer Noire, qui est une région quand même particulière également. Donc, ce sont vraiment, c'est une société ukrainienne. Pas du tout russe. Hein.
Ah, oui.
Ça se passe vraiment en Ukraine.
Mais ce n'est pas compris, je crois pas... par beaucoup de gens, parce que Russie était toujours présente dans l'histoire, dans les relations entre la Russie et France. C'était le pays principal dans l'Est d'Europe.
Oui.
Et maintenant, il y avait une rencontre avec des éditeurs français il y a 2 ou 3 mois, avec des éditeurs ukrainiens. Et quand les éditeurs français étaient dit qu'en Ukraine, il y a 45 millions d'habitants, ils étaient choqués. Oui, mais c'est le pays avec le territoire plus grand que la France.
Bien sûr.
Mais historiquement, bien sûr, l'Ukraine n'était pas importante dans les derniers 80 ans.
Oui. Ce qui est préoccupant, c'est que pour moi un petit peu, c'est que les gens pensent que c'est la Russie, alors que ça n'est pas la Russie, c'est vraiment l'Ukraine,
oui.
Avec des spécificités très ukrainiennes. Enfin, il me semble qu'il y a des, ce sont des personnages
avec
ukrainiens.
Cuisine différente aussi.
Oui. Oui.
Et les traditions différentes, oui.
Un environnement différent et une société différente aussi, avec une autre problématique que la société russe actuelle, en tout cas. Hein, mais, donc, ce sont des romans qui se déroulent vraiment en Ukraine. Il y a un dernier point qui m'interpelle toujours quand je lis un roman d'André Kourkov, c'est le rôle des femmes. Alors, j'y suis particulièrement sensible parce que je trouve qu'elles sont bien servies, quand même, les femmes en général. Elles sont présentées de façon plutôt à leur avantage. Par exemple, la mère d'Igor, elle s'est séparée de son mari qui, en gros, lui servait à rien. C'est en gros dit comme ça. Il n'était pas très intéressant. Igor dit oui, d'ailleurs, tu as très bien fait. Tu vis beaucoup mieux sans ton mari. Et elle, c'est une femme, je dirais presque un peu une femme russe, justement. C'est femme soviétique, on va dire.
Ah oui.
Ouais. Tu peux parler de ces femmes un petit peu soviétiques, ou telles que tu les vois, ou telles que tu les décris?
En fait, je ne pensais pas de femmes soviétiques. J'écrivais beaucoup sur les femmes ukrainiennes, parce que l'Ukraine, c'est une société matriarcale, avec un matriarcat caché, où les femmes sont très... trop intelligent, et il laisse les hommes jouer le rôle de quelqu'un qui dirige tout.
Oui. Oui.
Et bien sûr, si une femme est trop intelligente et veut jouer un rôle peut-être plus important que les hommes, elle peut se retrouver dans la prison.
Oui, c'est possible.
Mais en fait, la société ukrainienne a survécu les crises des années post-soviétiques grâce aux femmes, et parce que les femmes étaient responsables pour les familles. Ils ne laissaient pas ses mariés boire beaucoup ou faire des choses mauvaises ou être destructifs. Et quand la société n'existait pas comme la société civilisée, les familles restaient les seuls, comment on dit, pas formule, clientes.
Des cellules.
Les cellules, oui, des sociétés fonctionnant.
Mm-hmm. Oui, mais dans la société soviétique aussi, les femmes ont joué un grand rôle parce qu'elles ont souvent été seules.
Oui, la mère. La patrie, c'est la mère. Et presque tous les plus grands monuments dédiés à la guerre mondiale, c'est la mère avec les armes à rouge.
Les armes, oui.
Avec les armes, c'est pas un soldat.
Mm-hmm. Oui, et puis surtout les hommes mouraient quand même beaucoup à la guerre, et maintenant ils continuent à mourir beaucoup de l'alcool aussi. Ah, oui. Donc les femmes restent quand même souvent celles qui travaillent et celles qui font tourner la maison, quoi, et qui font qui gèrent pas mal de choses. Il y a une chose aussi, c'est que il me semble que si ce sont des héros positifs, c'est aussi parce qu'elles sont porteuses d'amour quand même, plus que les hommes. Mm-hmm. Non ?
Ah oui.
Oui. Pas...
Oui, mais c'est pas le roman d'amour.
Non.
Il y a deux histoires d'amour.
Oui. Mais il y a quand même un moment, je vais retrouver ça sur mes petites notes, où... voilà, Igor dit ça. Il parle d'une femme et donc il dit à son ami Rolian qu'il va retrouver une femme. Peut-être elles sont capables d'amour, mais aussi de pitié. Mmh. Et ce terme de pitié m'a quand même étonnée. Alors voilà ce qu'il dit. Peut-être concevrait-elle pour lui une aussi grande pitié que celle dont elle entourait son compagnon assassiné. Et cette pitié pleine de force ferait 100 fois plus de bien à Kolyan que son amour. Alors. La pitié, c'est un sentiment chrétien.
Oui.
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 C'est pas la compassion.
Non.
C'est la pitié.
Oui. Oui.
Et pourquoi la pitié?
Mais je pensais que parfois la pitié est plus forte que l'amour parce que la pitié, si quelqu'un reste faible. Et a besoin d'être aidé toutes les journées, pas régulièrement. C'est pas l'amour qui bouche la femme de lui aider. Je crois que c'est la pitié et c'est une autre dépendance psychologique. Mm-hmm. Parce que si il y a de pitié, il y a aussi le désir de défendre. C'est donc comme un enfant.
Comme un enfant.
Oui.
Voilà. Voilà. Donc en fait, les femmes restent quand même des mères beaucoup.
Hein, oui.
Beaucoup. Oui. Voilà. Bon, je vous conseille vivement la lecture de ce livre qui est un livre fort et extrêmement léger en même temps. Comme souvent chez André Courcoff, il y a beaucoup de profondeur et beaucoup de légèreté, c'est souvent très drôle. Je voudrais que vous ayez la possibilité de parler, vous, avec André Courcoff, et éventuellement de lui poser quelques questions, si vous le souhaitez. Et peut-être que sinon, tu peux lire un petit morceau aussi, ça serait bien.
Je peux essayer.
On peut essayer. On va voir d'abord s'il y a des questions, peut-être.
Oui, il y a. S'il vous plaît.
Bonjour et merci d'être venu nous voir. Je voulais savoir comment est né le pingouin. Quelle idée, en fait, vous a poussé à trouver ce compagnon à votre héros? C'est tout à fait improbable, disons, et donc surprenant. Je voulais savoir d'où venait ce pingouin.
En fait, il n'y avait pas de pingouins dans le zoo de Kiev jusqu'à 2007, je crois. Et le roman a été écrit en 1995. Mais je pensais parfois, c'est bon que les gens soviétiques étaient très proches aux pingouins, ou les pingouins étaient très proches aux gens soviétiques psychologiquement, parce que les pingouins... c'est les animaux collectifs qui font les mêmes choses et baladent les mêmes routes génération après génération, mais ici, tout est organisé par la nature. C'est comme programmé génétiquement. Et les gens soviétiques étaient aussi les gens collectifs, comme les animaux collectifs, où tout était programmé par la partie communiste. Et comme ça, m'imaginais un pingouin séparé d'un groupe. Est-ce qu'il peut trouver qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller? Et je pense que c'est pas possible parce que le pingouin séparé du groupe perd l'orientation. Et ça passait aux gens soviétiques après 1991. Je me souviens de mes parents, après la chute de l'Union soviétique, ils restaient dans l'appartement chez eux par mois sans comprendre qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec rente, avec d'argent, avec nourriture, tout ça. Et j'ai pas compris aussi les changements. Mais bien sûr, j'étais très jeune, j'ai essayé de comprendre et de s'adapter de ça, mais très souvent, je devais aller chez mes parents pour les aider à faire les choses plus simples, pour, comment on dit,
Pour remplir
les enquêtes nouveaux, pour payer pour chauffage, choses comme ça.
Pour remplir un nouveau formulaire.
Oui, et les enfants, mes parents étaient comme les enfants pendant les années. Maintenant, ils sont encore vivants. Ma mère est à 80 ans et mon père à 85. Mais ils comprennent maintenant, mais ils ne veulent pas vraiment... par exemple, suivre la politique. Il habite maintenant seulement grâce à un film de télé. Il ignore la vie de la société.
Pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'aurais une petite question, en fait, un peu indiscrète sur la façon dont vous travaillez pour écrire. Est-ce que... j'imagine que vous travaillez plus sur manuscrits, mais est-ce que vous archivez les versions? Enfin, comment vous retravaillez votre texte, en fait? Est-ce que vous... Voilà, c'est peut-être pas... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est différent parce que parfois je finis le roman mais je ne sens pas que j'ai fini le roman, et c'est-à-dire que je peux revenir au roman dans quelques années et réécrire quelque chose. Et il y a quelques romans qui ont deux versions. Le Laitier de nuit, il y a deux versions du roman. La version française, c'est la version la dernière version. Mais la première version qui existe, il y a deux éditions aussi en russe. La première version plus
plus importante,
plus grand, oui, c'est peut-être oui. 80 pages en plus, et avec un autre end un peu différent, et la version deuxième plus courte. Comme je dis, un peu différent, l'histoire qui finit un peu différent.
Et alors, du coup, si je continue, puisque je suis très curieuse, comment vous justifiez le fait de produire comme ça deux histoires, enfin, comment le fond et la forme s'articulent dans ce cas-là?
Non, je peux vous dire que, par exemple, je ne veux pas changer Le jardinier de Tchekhov, parce que le livre était fini, j'étais très content avec le résultat, et le livre est maintenant séparé de ma vie, existe séparément. Je peux m'imaginer, si je n'étais pas content avec le livre, mais mon éditeur ukrainien était content, et si j'étais fatigué, je pouvais donner le manuscrit à mon éditeur et revenir à roman dans 6 mois, 8 mois, une année, et changer quelque chose. Mais ce n'est pas une justification, non, c'est seulement ça que se passe.
Ah non. C'est ce qui s'est passé avec Le Laitier de nuit, hein. Je crois que vous avez repris voilà, vous avez laissé reposer le texte, le laitier de nuit.
Ah oui.
Hein, c'était ça, hein, et puis plus tard, vous avez repris.
Oui, oui, oui.
Voilà, c'était ça. Oui.
Mais le livre était déjà publié.
Je crois qu'il y a d'autres questions.
Oui, il y a une question ici.
Oui, je voulais savoir en fait si vous vous inscrivez dans une tradition littéraire, si vous avez une filiation avec d'autres écrivains, qu'ils soient ukrainiens, russes ou alors d'autres écrivains étrangers. Est-ce que certains écrivains ont compté fortement pour vous au point où ils vous ont vraiment influencé en fait ?
Je connais personnellement beaucoup des écrivains ukrainiens, russes et étrangers, bien sûr, mais j'étais normalement influencé seulement par les écrivains qui sont déjà morts.
Lesquels alors?
Maxime Gorky, quand il était jeune, Andrei Platonov, Knut Kamsun, Hermann Gesse, Franz Kafka, Gogol, Boris Pilniak. Mais je crois que c'est plus facile d'être influencé par les écrivains morts. Parce que, je suis très amical. Nous sommes les amis avec Vladimir Sorokin, Andrei Gelasimov, Zakhar Prilepin et beaucoup des écrivains ukrainiens. Et je lis les livres de ces écrivains, mais je ne me sens pas que je peux, comment on dit, je peux accepter l'influence de mes amis. C'est peut-être un problème psychologique.
Je comprends.
Mais en fait, j'adorais les deux romans de Vladimir Sorokin, Le jour d'Aprichnik et Le Kremlin de sucre.
D'accord.
Mais je ne suis. Je ne peux pas m'imaginer que je suis influencé par ces romans.
Et quel regard avez-vous sur la littérature française? Est-ce que vous la connaissez un peu? Est-ce que vous l'appréciez?
Pas beaucoup.
L'appréciez?
Oui, je connais Emmanuel
Carrère,
oui, c'est Les Moustaches, Édouard Limonov. Je connais Éric Nolot qui n'aime pas Michel Houellebecq.
Oui.
Et les auteurs
vous êtes
comme
au
ça.
Courant de la polémique.
Oui. Oui, mais je connais le livre d'Amélie Nothomb parce que j'ai reçu un message qui elle aimait Le Pingouin et j'ai décidé de lire un livre d'Amélie Nothomb, mais je ne peux pas dire que je suis un connaisseur de la littérature française contemporaine. Je lis plus souvent en anglais. Parce que pendant deux ans, j'étais le membre des jurys des Booker Prize International et j'étais envoyé presque 200 de livres, des meilleurs livres en anglais et c'était vraiment très intéressant de les lire et de découvrir auteurs comme James Kelman de Glasgow, Alice Munro. Mm.
Merci. Mm.
Mais chez nous aussi, il y a plus de traduction d'anglais que de français en Ukraine. Oui, c'est dommage.
Une toute petite parenthèse, on a souvent comparé Andrei Kourkov à Gogol, qui est un autre écrivain ukrainien, et pas russe. Gogol était ukrainien.
Oui.
Oui, encore j'ai une petite question. Là, ça c'est au sujet des auteurs ukrainiens. À part Maria Matios, que nous avons reçue avec vous il n'y a pas si longtemps que ça, quel est votre auteur ukrainien préféré?
Ouais, vous avez déjà dit, c'est Maria
Matios. Maria
Matios,
oui.
Mais à part de Maria Matios, c'est Taras Prochasko, qui est un auteur qui habite dans les Carpates. Et il écrit les textes très courts. Mais il travaille avec la langue, peut-être c'est le meilleur styliste de la langue ukrainienne. Et c'est le territoire qui auparavant appartenait le royaume autrichien-hongrois. Et je trouve que dans le style de Taras Prochasko, on trouve l'ordre allemand placé sur la langue ukrainienne. C'est très intéressant. Mais il y a des auteurs comme Yuri Izdrik, c'est la littérature plus moderne, un peu, comment on dit, acide. Taras Antipovitch, il y a maintenant il y a 10 ans, on a dit que nous avions une génération de jeunes femmes, 20-25 écrivains d'âge de 25-30 ans, qui étaient très actifs, mais ils écrivaient toujours les mêmes histoires intimes. C'était comme le journal d'expériences sexuelles négatives. toujours. Et il y avait des écrivains, des femmes écrivaines très intéressantes comme Irina Karpa, Irina Starostina, mais maintenant ils sont moins actifs et je crois depuis 2 ans, il y a une nouvelle génération des hommes écrivains, jeunes hommes écrivains. Le premier écrivain qui écrit les travaloques, les romans travaloques sur les voyages, il est toujours en Mexique, maintenant il est à Angola. Deux, trois auteurs qui écrivent les romans sur la vie des amateurs du sport extrême ou de la vie extrême dans la ville, c'est Anton Kouchnir, Artyom Tchekh. Mais je crois que la situation de la littérature est maintenant moins active qu'il y a 10 ans, 8 ans, je ne sais pas, à cause de crise ou à cause de la situation politique dans le pays, parce que vraiment, il y a une certaine atmosphère de tristesse maintenant parmi les écrivains. Et comme en anecdote, dans les derniers 3 jours, un écrivain aussi très intéressant de Lviv, Yuri Vinichuk, était attaqué par les communistes un membre du Parti communiste de Crimée a écrit une lettre officielle au procurateur, que les auteurs ukrainiens écrivent les textes pornographiques et il faut les interdire. Et la police a rendu une visite déjà chez Yuri Vinichuk il y a 2 jours et il devait écrire
une explication
pourquoi il écrit les romans. Il a dit qu'il écrit les romans érotiques, pas pornographiques, mais les communistes ne comprennent pas la différence. Les communistes ukrainiens, peut-être les communistes français comprennent.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah.
Tout à l'heure, lorsqu'on vous a demandé dans quel pays étiez-vous connu, vous avez cité un certain nombre de pays étrangers. Donc la question complémentaire, c'est quelle place occupez-vous aujourd'hui en Russie, dans la littérature russe? Êtes-vous populaire en Russie? Et même question pour l'Ukraine, êtes-vous populaire en Ukraine? Êtes-vous plus lu en Russie qu'en Ukraine ou inversement? Non,
je ne pense pas que je suis maintenant populaire en Russie. J'avais beaucoup de livres vendus dans le fin des années 90 et au début jusqu'à 2004. Mais après l'apparition du roman Le dernier amour du président, ma maison d'édition de Moscou AST a arrêté distribution et publication de mes livres et j'étais absent dans les librairies, dans le territoire russe pendant 18 mois. Et à partir de 2006, la maison d'édition Amphora édite mes livres, mais maintenant, je crois, les tirages, étaient pas grands, c'était entre 5 et 10 000 exemplaires. Pour la Russie, c'est pas beaucoup. En Ukraine, je crois, je vends plus de livres, mais aussi, je comprends que je suis plus connu comme un personnage public qui est très souvent dans le télé, la radio. J'ai écrit les columnes pour les sites d'internet et pour les journaux. Et plus de gens connaissent mon nom que lisent mes livres. Mais le pingouin, en russe et ukrainien, mais en Ukraine, on a vendu plus que 200 000 exemplaires et c'est beaucoup.
J'ai une autre question.
Oui, s'il vous plaît.
Si j'ai bien compris, je vous connais mal, donc si j'ai bien compris, vous avez commencé à être publié il y a une vingtaine d'années, 25 ans à peu près. Je voulais savoir, si j'ai compris, c'est cela. Et dans ce cas, qu'avez-vous fait auparavant, si ce n'est pas indiscret de vous le demander, quelle trajectoire professionnelle vous a amené à l'écriture?
Je commençais écrire la poésie dans l'âge de 6 ans et prose, j'ai commencé prose dans l'âge de 15 ans avec la continuation des récits courts de Daniel Charme. Et après ça, j'ai commencé à écrire les blagues politiques et pas politiques. Et dans l'âge de 17, j'écrivais un petit roman et j'avais des textes qui circulaient dans Samizdat, mais j'essayais toujours de les publier. C'était bien sûr pas possible, mais je les envoyais dans toutes les maisons d'édition soviétiques. Et à partir de l'âge de 18 ans, j'ai commencé collectionner les rejets écrits de maisons d'édition, d'abord de maisons d'édition soviétiques et après de maisons d'édition étrangères. J'ai fini d'abord après l'école secondaire. J'ai fini le collège ou les cours des désinfecteurs médicaux. Après, j'ai commencé à apprendre le japonais dans l'école de traducteurs. Après, je suis devenu l'étudiant de l'Institut de langue étrangère où j'ai appris l'anglais et le français et devais devenir un enseignant. Et je finis aussi l'Institut de la culture à Moscou. Comme le directeur de théâtre amateur et l'organisateur des activités sociales culturelles.
Merci. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Peut-être qu'on va clore la rencontre maintenant.
Oui, Une petite lecture.
Enfin, quand je dis une petite lecture, c'est-à-dire il est moins 10, voilà. Donc on a 10 minutes.
En russe, il y a des livres en russe. C'est plus facile à lire en russe.
Oui, je vous amène.
Je peux lire les deux.
Mais si c'est du russe, c'est peut-être mieux pour toi et tu peux choisir ce que tu lis. Moi, j'ai un extrait là.
Oui, d'accord.
Donc c'est mieux si tu lis en russe, peut-être.
Oui, d'accord. Ouais, c'est d'accord.
C'est formidable.
Je lirai du début, c'est plus facile. «Мама, там тебе соседка опять какого-то подозрительного мужика привела!» Бодрым голосом крикнул Игорь в открытые двери дома. «Чего кричишь?» Вышла ему навстречу в коридор Елена Андреевна. «Услышит ведь? Обидится?» Елена Андреевна покачала головой, критически глядя на своего 30-летнего сына, который так и не научился за свою жизнь говорить, когда нужно, негромко и шепотом. Их соседка по улице Ольга действительно как-то уж слишком озаботилась личными делами Елены Андреевны. Как только Елена Андреевна переехала с сыном из Киева в Ирпень, так и почувствовала она опеку Ольги, которой тоже было 55 и которая тоже жила без мужа. Елена Андреевна развелась со своим еще до пенсии. Уж больно он стал ей напоминать предмет мебели. Неподвижный, молчаливый, вечно недовольный и ничего по дому не делающий. Ольга же умудрилась вообще ни разу в жизни замуж не выйти, но говорила она об этом легко, без сожаления. «Мне мужик на привязи не нужен», – как-то сказала она. «Привяжешь – будет как собака, будет лаять и кусаться». Вышла Елена Андреевна к калитке и увидела свою соседку рядом с ней поджарого побритого мужчину лет 65 с выразительным лицом, волевым подбородком, с седым ежиком волос и с выцветшим брезентовым рюкзаком на спине. «Леночка, вот, познакомься, это Степан. Он мне коровник починил». Ну, все бы это тоже. Voilà.
Bon, je vous remercie.
Merci.
Et donc, je pense qu'il nous restera un petit moment avant que la salle soit prise. Et donc, si vous voulez... faire signer des ouvrages à la sortie. Je pense qu'André, il le fera volontiers.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ah non, là-bas.
En haut, oui, là où on peut se procurer les ouvrages.
Ouais. Et j'en profite juste donc, pour vous remercier et pour vous annoncer la prochaine rencontre lundi prochain à 18h30, une rencontre justement à l'occasion du bilan, en fait, l'URSS 20 ans après, organisée encore en partenariat avec l'association France Ourale, avec Christine, je vous laisse annoncer le...
Donc l'ancien président de la Biélorussie en personne qui a signé la dissolution, qui a signé l'accord de Belovej, avec également le conseiller du président Yeltsin qui a participé à cela, et le directeur exécutif de la fondation Yeltsin, et Jacques Sapir qui est chercheur et qui sort à cette occasion un livre. D'ici là, vous pourrez retrouver Andrei Kourkov aux journées du livre russe au Kremlin-Bicêtre, lors de tables rondes avec Andrei Sarokin, Zahar Priepin et d'autres auteurs. On a une très belle distribution cette année avec donc Andrei Kourkov, Ludmila Ulitskaya, Vladimir Sarokin, Andrei Zahar Priepin, Mikhail Shishkin et Leonid Gershovitch notamment. Un jeune auteur aussi, une jeune géorgienne qui vit au Québec. Donc là, on est aussi dans la russophonie. Donc voilà, ça dure deux jours. C'est au Kremlin-Bicêtre. Le 28 et le 29, et si vous intéressez à la littérature russe, eh ben, ça me semble être un endroit pas inintéressant. Merci.
Et juste pour compléter, on accueillera aussi Anne de Tinguy lundi soir de l'INALCO pour compléter cette table ronde sur l'URSS. Voilà, merci beaucoup.
Voilà. Я написала тебе статью для в русской, ты знаешь, есть русское приложение к Фигаро, которое называется «La Russie aujourd'hui». Ага. Я уже полтора года пишу там рецензии.
И вышла уже?
Свой контракт. Я, выйдет сейчас.
А, выйдет.